Si vous laissiez tomber la lecture pour un petit moment...
Recule, recule ou je te crève les yeux!
Le book club du nerd.
Du nerd?
Du nerd. Et puis merde. Salut et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Aujourd'hui, je prends mon micro pour vous parler d'un bouquin que je viens tout juste de finir et qui est le roman Dôme de Stephen King. Alors, ce roman, il m'a vraiment donné envie de lancer le podcast, comme plusieurs romans de Stephen King en réalité, mais c'est celui-là avec lequel j'ai sauté le pas, puisque à chaque fois, c'est toujours vraiment un très bon moment de lecture, même si parfois, on va pas se mentir, c'est des moments qui sont assez longs. Dôme, en l'occurrence, il est en deux tomes. Le premier tome fait quelque chose comme 820 pages, je crois, et le deuxième tome fait 720 ou 730. Donc en tout, ça fait à peu près 1500 pages. Et je suis pas un lecteur très très rapide, donc ça me met quand même en général à chaque fois plusieurs semaines, même des fois c'est étalé sur plusieurs mois de lecture, enfin plusieurs mois, parce que je lis pas que ce bouquin-là, je lis en général un livre de fiction et un livre de non-fiction en parallèle. Donc voilà. Et puis je lis pas très vite de toute façon, mais toujours est-il que ces 1500 pages, j'en ai pas perdu une miette. J'ai passé vraiment un très très bon moment et je me suis dit, avant, il y a encore quelques mois, on va dire 4-5 mois, j'avais jamais lu de Stephen King. J'étais assez bloqué à l'idée de me lire des romans assez noirs, assez durs, assez violents, etc. Et puis, en réalité, j'ai commencé un roman, puis deux romans, puis des nouvelles, puis plein de choses. Et en fait, maintenant, je suis un peu accro à Stephen King. Et là, je viens tout juste de terminer celui-là ce matin et je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je partage ça avec des gens pour que les gens qui n'ont jamais lu de Stephen King puissent découvrir et éventuellement sortir d'un a priori que moi j'ai pu avoir. Alors, je vais pas vous mentir, c'est un roman où il y a de la violence, c'est un thriller, il y a un petit peu, mais l'intrigue est quand même fantastique, science-fiction, etc. Mais très honnêtement, ce qui est important et ce qui est d'ailleurs majoritaire dans ce bouquin-là, c'est pas la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire du dôme, je vais vous expliquer rapidement après, mais c'est les petites histoires dans la grande histoire. Il y a énormément d'intrigues avec beaucoup de personnages et c'est hyper captivant. Donc, l'histoire principale du roman Dôme, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un jour, un dôme invisible s'abat sur la ville de Chester's Mill. Chester's Mill, c'est évidemment dans le Maine, qui est la région principale où se passent tous les romans de Stephen King. C'est sa région de prédilection. Je crois même que c'est là qu'il habite encore actuellement, je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est une petite ville. J'ai lu récemment, je crois que c'était 2000 habitants, en tout cas dans le bouquin, et je crois qu'ils disent 2000, mais il me paraît y avoir beaucoup de choses pour une ville de 2000 habitants, donc c'est peut-être plus. Mais voilà, globalement, vous voyez, c'est une petite ville, une toute petite ville des États-Unis. Et bien tout simplement, on va suivre tout ce qui se passe dans cette ville, et même un petit peu en dehors de cette ville, évidemment, mais après qu'elle soit bloquée, complètement rendue hermétique par rapport au reste du monde, à cause de ce dôme. Ce dôme, c'est pas un dôme en verre, c'est un dôme en espèce de champ électromagnétique. On ne sait pas d'où il vient, il est absolument indestructible. Je ne vais pas vous cacher, mais qu'ils essayent plein de choses pour le détruire et qu'en réalité, quasiment tout échoue. Même tout échoue, pour rien vous cacher. Et tout simplement, on va voir ce qui se passe. Et en plus, ce dôme, il est invisible. Donc, évidemment, entraîne beaucoup d'accidents. C'est un roman, où il y a malheureusement beaucoup, beaucoup de morts. Il y a quand même pas mal de violence. Mais il y a tellement d'intrigues et de choses comme ça. Il se passe tellement de choses que ça reste si vous êtes absolument dégoûté par la mort ou par des scènes violentes, c'est sûr que c'est pas un bouquin à lire, mais je dirais que c'est pas un bouquin qui est spécialement sadique sur la longueur. C'est vraiment, par moment, il y a des scènes ultra violentes, mais après on repart sur 10, 15, 20 scènes où c'est simplement de la pression psychologique, où voilà, on va être stressé avec les personnages, on va avoir des lueurs d'espoir, on va avoir plein de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, donc on va suivre plusieurs plusieurs protagonistes. En tout, il y a quand même une bonne trentaine ou quarantaine de personnages qu'on voit de manière récurrente. Et c'est pas un problème. On va en parler un petit peu après quand je vais parler de l'écriture, pour moi, de l'analyse de l'écriture de Stephen King. Et c'est pas du tout un problème. Mais en tout cas, on a quelques personnages très principaux. Le premier étant Big Jim Rainey, qui est le deuxième conseiller de la ville, mais qui a beaucoup d'autorité et qui fait pression sur beaucoup de monde. Donc c'est un peu le méchant de l'histoire. Hein. On pourrait l'assimiler aujourd'hui pour une ville, bon, en tout cas en France, à un maire, mais à un maire un petit peu carrément véreux. Donc on a lui et son fils Junior, qui est pour le coup un jeune garçon, je ne sais pas exactement, d'une vingtaine d'années, je pense, qui, on le voit, qui a des problèmes de santé, qui est un petit peu dérangé mentalement aussi. Et en fait, cette espèce de duo qui va avoir plein de choses et être mêlé à beaucoup d'intrigues assez folles. Et puis, on a Barbara, Barbie. Son surnom, c'est Barbie, qui est un ancien militaire qui a été envoyé en Irak ou en Afghanistan, je ne sais plus, et qui est revenu dans la société civile, qui s'était installé à Chester's Mill et qui était tout simplement commis de cuisine, on va dire, dans le bistrot du coin, qui sert à manger, à boire, etc. Je crois au Sweetbriar Rose, le nom du bistrot. Et en fait, lui, il a des déboires avec le fils de Big Jim Rainey et ses amis. Et donc, il va vouloir quitter la ville, tout simplement, pour refaire sa vie ailleurs. Sauf qu'il va vouloir quitter la ville, évidemment, le jour de l'apparition du dôme. Et il va se retrouver coincé. Là, il va être obligé de revenir dans la ville avec, évidemment, tout son passé et ses déboires avec certains habitants, etc., qui va entraîner beaucoup de choses. On a également Julia Shumway, qui est la rédactrice en chef du journal local Le Démocrate, et tout simplement par qui beaucoup d'informations vont passer. C'est vraiment un petit peu la plaque tournante des informations et qui va jouer un rôle central dans le roman. Et puis après, vous avez une galerie de personnages, mais qui est... Vous avez tout, vous avez... pas le boulanger du coin, parce qu'il n'y a pas forcément de boulangerie aux États-Unis, mais vous avez Roméo Burpee qui tient la quincaillerie du coin. Vous avez Rose, qui est une dame un peu âgée, qui tient justement la brasserie. Vous avez vraiment tout le monde. Vous avez les fermiers, vous avez les policiers, les docteurs, etc. Et on va voir toute cette galerie de personnages, leur famille, etc., évoluer. Et donc, évidemment, il y a quand même une grosse partie du roman qui est dédiée un petit peu à la partie survie. Comment est-ce qu'on fait quand on est coupé du monde? Alors, il leur reste encore les communications. Ils peuvent communiquer avec l'extérieur puisque les ondes pour les téléphones, les ondes satellites, les ondes radio, etc., passent entre l'intérieur du dôme et l'extérieur du dôme. Mais par contre, évidemment, tout le réseau électrique est coupé puisque ça arrive par des câbles, hein, et donc ils sont obligés de se rabattre sur des générateurs d'électricité à propane, hein, c'est des générateurs à gaz, et donc il va y avoir beaucoup d'intrigues autour justement de ces bouteilles de gaz qui disparaissent, qui réapparaissent, etc. Voilà. Je ne peux pas vous en dévoiler trop évidemment parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de ça, mais c'est comment est-ce qu'une communauté avec des bonnes personnes, des mauvaises personnes, des mauvaises situations par des bonnes personnes et inversement, comment est-ce que ces gens survivent ou pas, meurent, perdent l'espoir, regagnent une lueur d'espoir, etc. Pendant les 7 jours du roman, puisque le roman du début de l'apparition du dôme jusqu'à la fin, évidemment je ne vais pas vous dévoiler la fin, il passe 7 jours. Très honnêtement, moi quand j'ai fini le premier tome, qui correspond à peu près à la moitié de l'histoire, hein, j'avais l'impression déjà qu'il s'était passé au moins 3, 4, 5 semaines depuis le début, et des fois j'avais l'impression, je trouvais que les gens ne paniquaient pas tant que ça. Il y a de la panique, évidemment, il y a plein de choses, hein, mais je me suis dit, là ça fait quand même longtemps qu'ils sont enfermés, et moi j'aurais des réactions, je pense qu'ils seraient beaucoup plus paniqués que les gens qui sont à l'intérieur. Et en réalité non, en fait c'est qu'il y a tellement d'intrigues et de personnages différents qu'on suit, qu'on a l'impression que le temps passe très vite, et très honnêtement, c'est vraiment un point fort du roman, on ne s'ennuie jamais. Si l'épaisseur du livre vous fait peur, franchement, allez-y quand même, puisque on ne s'ennuie pas une seule seconde. En plus, on va y revenir un petit peu après, mais Stephen King, il fait des très longs chapitres, mais chaque chapitre est découpé en énormément de petites scènes. Donc vous avez des scènes qui font littéralement une demi-page, et beaucoup de scènes font une, deux, trois pages. Et donc en fait, ça permet, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à faire des longues sessions de lecture, etc., et bah, de vous dire, je vais jusqu'à la fin de la scène. Et en fait, très souvent, vous êtes pris et vous dites, ah mais là, la scène d'après, c'est une intrigue précédente à laquelle on revient. Elle m'intéressait, je vais refaire, et en fait vous retrouvez à lire pendant une demi-heure, une heure, sans voir le temps passer. Donc vraiment, c'est assez fou comme expérience de lecture. Mais voilà, globalement, il va se passer énormément de choses. Il y a aussi une grosse histoire autour d'une fabrique de drogue qui est retrouvée dans la ville. Voilà, bon, il y a des meurtres, il y a plein de choses. C'est vraiment un thriller où vous avez absolument tout ce qu'on retrouve dans des thrillers. Mais d'habitude, vous avez, bah, je sais pas, il faudrait, pour avoir le nombre d'intrigues qu'il y a dans Dome, il faudrait 10 bouquins, 10 romans différents pour avoir autant d'intrigues variées. Donc c'est hyper, hyper intéressant et captivant. Donc voilà, franchement, allez-y, lisez-le. Est-ce que c'est le meilleur roman de Stephen King pour démarrer? Je dirais que si vous êtes fan de thriller, oui. Si vous n'êtes pas spécialement fan, comme moi, je ne l'étais pas forcément, et c'est aussi pour ça que j'ai mis très longtemps à découvrir Stephen King, pas forcément. Moi, je vous dirais plutôt, on en reparlera dans un prochain épisode, mais d'aller sur un roman comme Billy Summers, qui est plutôt un roman... Alors, l'intrigue paraît être typée thriller. En réalité, c'est... une espèce d'aventure, il y a une partie road trip, etc., qui sera plus facile si jamais vous n'êtes pas trop ambiance, un petit peu dark, un petit peu violente, etc. Maintenant, passons au côté style, au côté écriture. Si vous avez déjà lu Stephen King, vous le savez sûrement déjà, c'est un style qui est très cinématographique. C'est-à-dire que, bah, comme je disais, on le lit facilement, les scènes sont très bien décrites, ni trop ni pas assez, c'est-à-dire qu'on s'ennuie jamais dans la description d'une scène. Un peu, à la limite, un petit bémol, encore c'est pas vraiment un bémol, mais la scène, plutôt les scènes d'arrivée du dôme, on les voit avec le point de vue de plusieurs personnages, et donc c'est un petit peu le moment, et c'est au tout début du roman, il y a, je dirais, peut-être une cinquantaine de pages, qui est un petit peu... c'est un petit peu plus lent que le reste du roman, mais une fois qu'on a passé ça, par contre, bah, c'est comme regarder un film en fait. Voilà. Tout s'enchaîne, c'est hyper, on s'ennuie pas et c'est hyper dynamique. Beaucoup de suspense, beaucoup de choses comme ça. Moi, ce qui me fait surtout toujours accrocher à ces bouquins, c'est les moments un petit peu drôles dans parfois des situations qui sont absolument horribles, mais il y a une espèce de... Il maîtrise l'art d'arriver à désamorcer des scènes qui sont parfois dramatiques, avec juste parfois une petite phrase à laquelle on s'attend pas. Ça peut être quelque chose d'un peu mignon ou quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à la scène et à la pression que sont en train de vivre les personnages. Voilà, on a un petit peu tout. Moi, en général, je me les note, je me les mets de côté. Là, j'en ai quelques-unes sous les yeux, mais on a par exemple une scène qui se construit quand même sur une bonne partie du livre où y a un rapprochement entre deux personnages. Et au final, ils arrivent enfin, on va dire, à conclure. Et on est vraiment dans un moment assez critique de l'histoire. Et on pourrait s'attendre à une belle scène d'amour entre deux, etc. En réalité, c'est expédié plutôt vite. J'ai rarement lu des vraies belles scènes, on va dire, d'amour charnel ou quoi, dans l'écriture de Stephen King. Mais là, on est carrément à un autre niveau d'expédition. C'est-à-dire que y en a un qui dit doucement, j'ai un peu oublié comment se passent ces trucs-là. Et l'autre répond texto, c'est comme la bicyclette. Et là, terminé, fin de scène, plus rien, rideau. Après, on en a qui sont encore un petit peu plus saillantes, un petit peu plus piquantes, que j'aime bien aussi. Il y en a un pour décrire, je crois que c'est pour décrire sa femme en plus, qui est vraiment terrible. Il a décrit en une phrase, il dit « Elle a l'âme d'un poète, mais la structure émotionnelle d'un chien errant ». Bon, celle-là, faut pas se la prendre en pleine tête, parce que ça fait quand même vraiment pas plaisir. Et puis après, là, il y a les militaires qui en prennent pour leur grade à plusieurs moments du livre, et c'est compliqué pour les gens à l'intérieur du dôme de se mettre à la place des militaires qui sont un petit peu impuissants. Et il y en a un qui dit, en parlant d'eux, il dit les civils, faut les traiter comme des champignons, les laisser dans le noir et leur donner de la merde à bouffer. Voilà, c'est toujours un petit peu, on envoie des pics comme ça, c'est tout un corps de métier qui prend directement dans la tronche. Mais après, il y a des trucs beaucoup plus mignons. Il y a un adolescent qui part, on va dire, faire une quête, qui a un objectif. Et il a cette phrase qui sont « Les enfants sont invisibles pour les adultes, sauf quand ils sont sur un skate », qui en fait est très innocente à première vue, mais en même temps qui a beaucoup qui a une belle seconde lecture, je trouve. Donc voilà, il y a plein de petites phrases comme ça qui permettent vraiment bien de soit désamorcer certaines scènes qui sont vraiment assez tendues, ou simplement de redonner un petit peu de dynamisme dans un dialogue qui peut des fois être un peu long ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ça montre vraiment très très bien, on va dire, l'amplitude de l'écriture de Stephen King, qui va arriver à parfois changer une scène ou le ressenti d'une scène avec une à deux phrases. C'est quand même assez incroyable. Et je voulais quand même rapidement parler des marottes un petit peu de Stephen King. Sa première marotte, c'est évidemment de s'auto-référencer, hein, mais bon, on ne va pas lui en vouloir puisque il a écrit tellement de bouquins dans sa vie que c'est légitime. Mais voilà, là on a une toute petite référence à The Mist, qui est un autre roman qu'il a écrit. Mais là, c'est même pas dans le récit ou quoi que ce soit, c'est simplement un blogueur à un moment qui écrit comme dans The Mist. Il parle rapidement du roman. C'est vraiment un petit caméo de l'auteur et du roman. Mais sinon, sa marotte qui est beaucoup plus présente, d'ailleurs dans ses autres romans et là, c'est quand même une espèce de vision, et là une dent contre la religion, en tout cas je sais pas si on peut dire une dent, mais il y a quelque chose. On sent qu'il y a un rapport fort à la religion et qu'il est quand même vite en contradiction avec. Là, il a carrément créé un personnage, la révérende Piper Libby, qui ne croit plus en Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne croit plus en Dieu déjà avant l'arrivée du dôme. Et il y a cette phrase justement dans le roman pour la décrire qui dit « La révérende Piper Libby ne croyait plus en Dieu, chose qu'elle n'avait pas encore partagée avec ses paroissiens. » Et donc, il va la mettre en scène carrément en train de donner des sermons, d'essayer de soutenir moralement les gens, alors qu'en réalité, elle ne croit même plus en Dieu. On peut lire des passages où elle se parle à elle-même pendant ses sermons et où elle dit « de toute façon, je suis en train de dire que des conneries », etc. Et c'est intéressant aussi de voir son cheminement de pensée au fur et à mesure du roman. Mais il y a aussi des personnages comme le méchant de l'histoire, on va dire Big Jim Rennie, qui a des expressions qui sont absolument horribles et qu'il réutilise littéralement toutes les 10 pages. Il a une expression favorite qui est d'appeler quelqu'un qu'il n'aime pas un cueilleur de coton. Ce qui est absolument horrible, hein, c'est une expression qui est complètement raciste. Mais en fait, là on comprend bien que c'est pas Stephen King qui est juste raciste et qui utilise comme ça pour décrire des gens. C'est le personnage qui l'utilise un peu comme une marotte verbale et qui parle de tous ses ennemis comme ça. Et sachant que là où ça désamorce un peu, c'est que la plupart des personnages dont il parle et avec lesquels il utilise cette expression ne sont absolument pas noirs. Donc c'est juste... En fait, on lit une première fois et la réaction émotionnelle est telle... Chez le lecteur, je trouve que ça... C'est des choses qu'on n'a tellement pas l'habitude de lire que ça nous met directement dans une colère où on déteste directement le personnage. Et je pense qu'à la 60e page, vous avez déjà envie qu'il meure dans des circonstances atroces juste parce qu'il traite absolument tout le monde de manière terrible. Et quand il parle des gens, c'est encore pire. Donc voilà, c'est très dur comme roman à juste décrire en quelques minutes. Je vois que ça fait quasiment 20 minutes déjà que je vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Allez-y. Si jamais le nombre de personnages vous fait peur, ne soyez pas effrayés. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les nombreux personnages, les noms des personnages. J'en oublie toujours plusieurs. Et ben là, ça se passe pas du tout. Stephen King, il a une manière d'écrire et de raconter qui est absolument incroyable sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il a le don pour, dès que vous avez oublié le nom d'un personnage, plutôt que le nom d'un personnage ne vous dit rien, vous savez plus qui c'est, et ben il va rajouter une petite indication, mais ça passe très bien, c'est très bien intégré dans le texte. Je vous parlais tout à l'heure de Julia Chemouay qui est responsable aux démocrates au journal local. Eh bien, il y a deux autres journalistes, photographes, etc. qui travaillent dans le journal. Mais honnêtement, on les lit trois fois dans l'histoire et ils n'ont pas un rôle hyper important. Mais ils sont quand même là vers la fin du bouquin. Ils apparaissent dans une scène et franchement, leur nom, moi je l'ai lu et ça me disait absolument rien. Mais King a écrit, tout simplement, il y avait Julia aussi dans la scène, et donc il a listé les personnages qui étaient là, et il a mis, je crois que c'était toute l'équipe du démocrate était là. Et ce qui fait sens, ce qui n'est pas lourdingue, et ce qui nous donne tout de suite, tout simplement, un petit ping en mémoire en disant, ces deux personnages-là, c'est eux, même si vous ne vous souvenez pas qui c'est, au moins maintenant, vous avez l'info. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, hyper important, et c'est parfois ce qui pourrait me faire arrêter la lecture d'un bouquin, surtout, on va dire, d'une histoire aussi longue. Et bien là, je peux vous promettre, et pourtant je suis très nul à ça pour me souvenir des personnages, que c'est jamais, jamais, jamais un problème, même avec une panoplie de 30, 40 personnages récurrents. Voilà, donc c'est vraiment une prouesse. C'est pour ça, je vous dis, foncez. C'est super bien écrit, l'histoire est captivante, je sais pas quoi vous dire de plus. Je peux pas vraiment vous donner plus d'infos sur l'histoire parce que ça serait trop, trop spoilé. Mais petit point, la fin, c'est à la fois ni la meilleure fin d'un roman que j'ai lu, clairement pas la pire. En fait, moi je pense que c'est plutôt normal quand on se farcit 1500 pages d'une histoire, c'est pas seulement pour les trois dernières pages de fin. Là en l'occurrence c'est exactement ça, y a la célèbre... célèbre citation qui dit c'est l'important c'est pas l'arrivée c'est le voyage, et bien là c'est clairement ça, la fin n'est pas décevante du tout, elle est amenée, elle est bien amenée, à la fois on est quand même un peu surpris parce qu'on sait pas exactement comment ça va se finir, donc voilà, c'est franchement faites-vous le tome 1 et vous allez voir qu'à la fin du tome 1 vous allez forcément vouloir enchaîner avec le tome 2, donc c'est ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai lu, je suis tombé sur quelques romans de Stephen King où la fin était quand même assez décevante, là très honnêtement c'est mon opinion mais je trouve pas que ça soit le cas, donc voilà, allez-y, les yeux fermés, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du podcast, faites-moi vos retours, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un avis sur... les plateformes de podcast pour tout simplement me donner votre avis, vos retours et puis faire remonter le podcast dans les référencements. Ça me donnera tout simplement un énorme coup de pouce. À très vite pour un prochain épisode. Salut.
C'est un bon livre ?
Apparemment, c'est de l'elfique. Je ne peux pas le lire.
Quelle importance ?
Ta gueule.
Ça, c'est vrai, chef.